En esprit et en vérité 04 Le culte et l'assemblée. Ce que nous venons d'étudier démontre que l'assemblée ne constitue pas, dans un sens exclusif, le culte chrétien. En fait, il conviendrait de dire ceci, les disciples s'assemblent non pas pour devenir des adorateurs, par le simple fait de s'assembler, mais pour devenir de meilleurs adorateurs, parce qu'individuellement ils le sont déjà. Il importe donc pour l'apôtre Paul que les disciples s'assemblent pour devenir meilleurs, confère 1 Corinthiens 11h17, il faut que tout se fasse avec bienséance et avec ordre, que tout se fasse pour l'édification, 1 Corinthiens 14h26, 40, 1. Lorsqu'ils s'assemblent, les chrétiens doivent donc se conformer à un ordre établi par Dieu. Il y avait des choses à mettre en ordre, à régler, dans certaines assemblées du Nouveau Testament, et c'est sous cette réserve que nous pouvons prendre ces assemblées pour modèle, confère 1 Corinthiens 11h34, Tite 1, 5. Il serait bien étrange qu'on ne corrige plus aujourd'hui ce qui méritait correction du vivant des apôtres, ou pire, qu'on encourage aujourd'hui ce qui était découragé par les apôtres, sous prétexte que cela se faisait dans l'Église primitive. Importance et signification des assemblées. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au 1 Paul utilise un mot qui était employé dans le domaine militaire, le grec taxin signifie arrangement, mise en ordre, bonne disposition. 24. Travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Hébreux 10h19-27, c'est donc dans l'Épître aux Hébreux que l'on trouve l'un des textes les plus clairs quant à l'importance des assemblées et quant à la gravité de les abandonner. Notons, en passant, que la coutume, ou l'habitude, d'abandonner les assemblées ne peut être mise en parallèle qu'avec la coutume, ou l'habitude, de se joindre aux assemblées. Ce n'est donc pas l'habitude qui est un problème spirituel pour le chrétien, mais plutôt quelle sorte d'habitude. Mais, à la réflexion, n'est-il pas significatif de trouver un tel texte dans une épître dont l'objet principal n'est pas, à première vue, de nous présenter des doctrines sur l'Église ou le culte? En effet, c'est surtout de Jésus-Christ et de son œuvre médiatrice dont il est question dans cette épître. Mais l'apôtre Paul ne dissocie pas entre le Christ et son Église, entre le salut et les assemblées, entre le pardon et le culte. Ceci est particulièrement évident lorsqu'on lit ce texte dans sa version originale. On constate, par exemple, qu'entre les versets 19 et 26 il n'y a aucune ponctuation, les copistes du texte ponctué ont donc compris qu'il y avait ici une continuité de pensée. Cette ponctuation dépend d'ailleurs de la syntaxe. L'exhortation de ne pas abandonner l'assemblée dépend grammaticalement des premiers mots du verset 19, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est aussi le contexte qui montre une continuité de pensée chez, 25, l'auteur. Dans les versets 22 à 25, plusieurs exhortations dépendent des affirmations qui précèdent. La première affirmation, verset 19, nous assure que nous avons une libre entrée dans le sanctuaire par l'offrande de Jésus. La seconde affirmation, verset 21, nous rappelle que nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. En d'autres termes, le sacrifice et Jésus et son rôle médiateur nous garantissent l'accès direct à Dieu. Les exhortations qui suivent viennent compléter ces deux affirmations. Étant donné que nous avons un accès direct à Dieu, approchons-nous de lui, continuons à espérer, veillons les uns sur les autres, exhortons-nous réciproquement. L'exhortation de ne pas abandonner notre assemblée est liée à celle de veiller les uns sur les autres. En effet, il est évident que si les chrétiens ne s'assemblent pas, ils ne seront pas en mesure de veiller les uns sur les autres et de s'exhorter. Enfin, l'avertissement du verset 26 constitue une conclusion à tout ce qui précède. Si nous voulons ne pas pécher volontairement de nous devons nous approcher de Dieu, nous devons persévérer dans notre espérance, nous devons veiller les uns sur les autres, n'est-il pas ici question, comme c'est souvent le cas chez Paul, de la foi, de l'espérance et de l'amour, confère Jacques 4, 7 et 16, Colossiens 1h23, Jacques 5h13-20. Voici ce que donnerait Hébreux 10h19 et 16 dans une traduction littérale, ayant donc, frères, une pleine assurance pour entrer dans le sanctuaire par le sang de Jésus, qui a dédié pour nous un chemin nouveau et vivant par le voile, c'est-à-dire sa chair, et ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans une plénitude de foi, ayant eu les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et ayant été lavés selon le corps avec une eau pure, tenons fortement la confession de notre espérance sans fléchir, car il est fidèle celui qui a promis, éveillons les uns sur les autres pour provoquer l'amour et de bonne de le verbe amarteno est au participe actif, indiquant une continuité dans le péché plutôt qu'un péché isolé, Conférentiens 3, 4 à 10. L'adverbe traduit volontairement signifie de bon gré, Conférentiens Pierre 5, 2, Philémon 14, 26, œuvre, ne délaissant pas le rassemblement de nous-mêmes, comme c'est l'habitude pour certains, mais nous exhortant, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. En effet, si nous péchons de bon gré après avoir obtenu la connaissance de la vérité, il n'y a plus en réserve un sacrifice pour les péchés. Quelques remarques sur ce texte, un caractère exclusif des réunions chrétiennes ressort de ce passage. Se réunissent pour s'exhorter ceux qui ont déjà accès à Dieu, qui ont eu le cœur purifié d'une mauvaise conscience et qui ont eu le corps lavé d'une eau pure, le baptême. Il faut certes accueillir, dans les assemblées chrétiennes, tout visiteur, Conférentiens 14 h 23, notez comment Paul présente ses visiteurs, et qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants. Mais les églises primitives considéraient-elles les assemblées comme un moyen d'évangélisation ? 2. Le but des réunions chrétiennes c'est que chaque disciple puisse se parfaire. Nous nous assemblons pour devenir meilleurs, pour grandir dans l'amour et progresser dans les bonnes œuvres. Nous voulons sortir de l'assemblée désireux de faire de bonnes œuvres, de manifester l'amour de Jésus envers tous ceux qui nous entourent. Tout ce qui se dit ou se fait dans les assemblées devrait concourir à ce but. Le but des assemblées est donc d'ordre moral et spirituel, et non d'ordre artistique ou esthétique. 3. Les verbes d'exhortation, approchons-nous, retenons, veillons, n'abandonnons pas, exhortons-nous sont des subjonctifs d'ordre ou d'exhortation comme on en trouve en grec classique. Le subjonctif exprime une relation de dépendance, c'est-à-dire que ces exhortations prennent toute leur valeur par rapport à ce que Christ, Conférentiens 19, accomplit pour nous. Par conséquent, la notion catholique du prêtre qui actualise le sacrifice de Christ par la messe n'a pas de raison d'être. En outre, le subjonctif ayant ici valeur d'impératif il exprime aussi un ordre, 3-3 sur l'emploi du subjonctif à la première personne et sur les propositions volitives, voir Akaiji grammaire abrégée de la langue grecque page 159. 27, 4, le sens du mot assemblé dans ce texte. En grec nous avons tant episunagogenton, littéralement, le rassemblement de nous-mêmes. L'auteur a donc employé le substantif synagogé non ecclesia, assemblée, église. Mais synagoge ou synago 4, d'où nous avons synagogue, décrit souvent les réunions de disciples. Voyez à 14h27, est-ce convocaire, synago, l'église, ecclesia. Jacques parle, vraisemblablement d'une réunion de l'église en Jacques 2, 2, supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée, synagoge, un homme avec un anneau d'or. Le verbe synago décrit la réunion des disciples le premier jour de la semaine, jour de la résurrection de Jésus, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient, synago, les disciples étant fermés. Jean 20h19, le premier jour de la semaine, nous étions réunis, synago, pour rompre le pain. Actes 20, 7. Dans ces deux textes les disciples ne se trouvaient pas ensemble comme par hasard, ce que laisse entendre second Jean 20h19, ils étaient réunis dans un but précis. En outre, la régularité d'une telle réunion le premier jour de la semaine est indiquée en Jean 20h21, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. C'est encore le premier jour de la semaine que Jésus rompt le pain avec les disciples d'Emmaüs, et qu'il retrouve ses disciples assemblés à Jérusalem, Luc 24h13-35. 4. Le grec synagogue et synago est employé environ 55 fois dans le Nouveau Testament, en particulier dans les Évangiles et en Actes. En Hébreux 10h25 le substantif est précédé du grec épi. Or, episunagoge ne se trouve que dans ce passage et en 2 Thessaloniciens 2, 1. Certains érudits pensent que la présence du épi implique une idée de répétition, Liddell et Scott, ce mot décrit une réunion répétée au même endroit. 28.